Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'évangile selon Paul. Alors, vous connaissez normalement l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. J'ai envie de vous parler de l'évangile selon Paul. Pourquoi ? Parce que trop souvent, je me vois en train de prêcher l'évangile selon Matthias. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien. Ou plutôt heureusement. Parce que l'évangile, ça ne me concerne pas directement, ça concerne d'abord Jésus et ceux qui lui ont rendu témoignage. Alors, j'aimerais commencer par parler un petit peu d'évangélisation. Vous savez qu'on parle beaucoup du fait d'évangéliser, mais il existe de nombreuses manières d'évangéliser. On met de nombreux concepts derrière ce mot. Ça peut être la distribution de flyers, on peut distribuer des livrets, faire des campagnes d'évangélisation, des comédies musicales, pourquoi pas, évangéliser dans la rue, au travail, dans sa famille, faire une prédication, un témoignage personnel. Ça, c'est évangéliser. Mais je pense que c'est devenu un mot un peu fourre-tout. Parfois, derrière le mot évangélisation, on met à peu près n'importe quelle action qui a pour but de un peu faire connaître qu'on est chrétien. Mais évangéliser, ce n'est pas faire connaître qu'on est chrétien. C'est annoncer la bonne nouvelle. Alors la Bible, elle dit quoi ? L'objectif principal, ce n'est pas d'évangéliser, c'est de faire des disciples. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce verset, Matthieu 28-19, il y a une faute de frappe. Il faut faire de toutes les nations des disciples. Et évangéliser, si c'est juste distribuer des flyers, ou alors bien se comporter quand on est dans la rue et jeter son chewing-gum à la poubelle, ça ne suffit pas. Par contre, c'est un bon moyen. C'est une bonne porte d'entrée. Et pour commencer à faire des disciples, il faut déjà commencer à annoncer la nouvelle de la bonne manière. Et pour le faire, je crois qu'il est très important de savoir vraiment précisément c'est quoi cette bonne nouvelle. Si on ne sait pas dire avec précision et si on n'a pas compris dans sa profondeur qu'est-ce que c'est l'évangile, malheureusement, on ne va pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ, on va prêcher l'évangile de Matthias, l'évangile de X ou Y. On va prêcher son évangile, la manière dont nous, on a reçu l'évangile. Alors, l'évangile, j'ai mis du grec, on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire quand on était sérieux. Euangelion, ça veut littéralement dire la bonne nouvelle. Euangelion, vous savez, en français, on dit... Il y a le prénom Eugénie, bien-né, euthanasie, la belle mort. Bon, ça reste à voir. Euangelion, la bonne nouvelle. Pour comprendre cette bonne nouvelle et pour l'annoncer correctement, et c'est ma thèse ce matin, je pense qu'on doit commencer par annoncer la mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce que si la mauvaise nouvelle n'est pas annoncée avant la bonne nouvelle n'est plus bonne, c'est juste une nouvelle. C'est juste une nouvelle parmi d'autres. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles, on va lire dans Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 10. Donc tous ceux qui ont une Bible, même sur téléphone, je vous invite à l'ouvrir pour pouvoir suivre ce message, ce sera, disons, pas essentiel mais bénéfique. Parce que je ne vais pas toujours mettre les versets à l'écran. Alors ce matin j'avais le choix... Est-ce que je commence le passage au verset 1, Éphésiens 2, 1, ou est-ce que je commence au verset 4 ? On verra que c'est plus facile de commencer au verset 4, mais on va faire le package complet ce matin. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Quant à vous, il est en train de parler aux Éphésiens, qui sont des chrétiens convertis. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère comme tous les autres. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce passage, c'est un résumé en 10 versets de l'Évangile. Et je l'ai découpé en 3 phases. Premièrement, les versets 1 à 3, ça nous parle de cette mauvaise nouvelle, le péché, la mort et la condamnation. Et on doit en parler et on en parlera ce matin. Les versets 4 à 6, c'est la bonne nouvelle, la grâce, la résurrection et l'union avec Christ. On doit aussi en parler. Et enfin, les versets 7 à 10, ça nous donne le but du salut. La gloire de Dieu, la foi et les bonnes œuvres. Alors je vous invite à me suivre pour cette première partie. On va un peu détailler cette mauvaise nouvelle qu'on doit tous connaître et comprendre afin de pouvoir correctement annoncer l'Évangile. Cette mauvaise nouvelle, elle est annoncée dès le début du passage. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ce qui est important de saisir ici, c'est que Paul, il est en train de parler à des personnes qui sont vivantes. Il est en train de dire « vous étiez morts ». Mais en réalité, ils n'ont jamais été morts physiquement. Donc il n'est pas en train de parler d'une mort physique. Il est donc en train de parler d'une mort spirituelle. Et cette mort spirituelle-là, elle fait écho, en tout cas selon moi, à ce passage dans Ézéchiel 36 et 37. C'est une vision qu'a le prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament où il voit une vallée qui est remplie d'os desséchés. Et là, il y a le Seigneur qui parle et qui dit « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Cette prophétie dans Ézéchiel nous parle de personnes qui sont complètement mortes. Et Dieu vient, il arrive, il insuffle son esprit et il vient ressusciter ces gens pour qu'ils deviennent à nouveau vivants. Alors dans l'image, c'est une mort physique, on nous parle d'une mort physique. Et peut-être qu'il y a aussi une partie de cette prophétie qui nous parle d'une résurrection qui est physique. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir le lien fort avec ce que Paul dit aux Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et on vient de le lire. Nous sommes ressuscités avec Christ. Ressuscité avec Christ non seulement, mais en plus Dieu a insufflé son esprit en nous, il l'a mis en nous pour que nous soyons vivants. Je prolonge avec cette question de la mort et de la mort physique et spirituelle. Romains 5, 12, Paul nous dit « C'est pourquoi comme par un seul homme, on parle d'Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort ». Et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est qu'il fait un lien direct entre le péché et la mort. Vous savez qu'en Genèse 3, juste après la chute, il est écrit à Adam, « Tu es né de la poussière, tu redeviendras poussière. » Lorsque Adam et Ève ont commis ce péché de manger le fruit, qu'ils ont chuté, ils sont passés d'un état de vie spirituelle à un état de mort spirituelle. Et cette mort spirituelle qui est causée par le péché, elle va finir un jour par causer leur mort physique. Et nous sommes des enfants d'Adam et Ève, des descendants. Nous avons tous péché, nous sommes tous marqués par ce péché, et donc nous sommes tous condamnés à vivre actuellement la mort spirituelle et demain la mort physique. Finir dans la tombe. Ah, c'est pas super réjouissant, je vous le concède. Vous me suivez jusque-là ? Super. Alors, qu'est-ce que le péché ? Oh, j'ai mes animations qui viennent trop vite. Bon, c'est pas grave. Je vais vous dire ce que c'est. Le péché, il comporte deux dimensions. Premièrement, une dimension de nature. Pourquoi ? La Bible nous dit que par nature, et d'ailleurs le texte le dit aussi dans Éphésiens, par nature, nous sommes pécheurs. Nous sommes tachés par le péché. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu dur à accepter, mais la Bible est claire. Elle dit que malheureusement, toutes les parties de notre être, avant que nous soyons transformés et renouvelés par Jésus-Christ, toutes les parties de notre être sont entachées par ce péché. D'une telle manière à ce que malheureusement, on ne puisse pas plaire à Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu, on ne peut pas se raccrocher à lui à cause de ce péché qui nous empêche et qui nous bloque. Ça, c'est la première composante du péché, c'est quelque chose vraiment de naturel. C'est notre condition d'humain. La deuxième, ce sont les actes. On parle souvent du péché comme étant des actes mauvais. Oui, mais il y a quand même une composante dans le péché, c'est le fait de faire des fautes, de faire des transgressions qui sont concrètes. La loi de Christ, l'évangile de Christ, ce n'est pas un évangile qui nous donne une série de lois à respecter pour être saints. C'est plutôt une façon de voir la vie qui nous amène à vouloir ressembler de plus en plus à Jésus-Christ et de devenir saint comme Dieu lui-même est saint. Et quand on fait une faute, quelque chose qu'on sait qui n'est pas saint, qui ne fait pas honneur à Dieu, eh ben on commet un péché. Une bonne manière de détecter ce qui est un péché, c'est aussi de voir simplement est-ce qu'on marche selon le train du monde ou alors est-ce qu'on marche à la suite de Jésus-Christ ? Dans Éphésiens 2:2, c'est le deuxième verset, on dit que vous pratiquez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Le monde ne vit pas selon la loi de Christ. Le monde vit selon la loi du péché. Et donc si nous on suit le train du monde, malheureusement on se fait entraîner et malgré nous, eh ben, on va se mettre de plus en plus à faire des actes qui déplaisent à Dieu et qui nous séparent de lui. Donc vous voyez les deux composantes du péché, c'est à la fois une nature et des actes et les deux s'alimentent l'un l'autre. Notre nature va nous pousser à pécher et nos péchés vont aggraver l'état de notre nature. Et ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a une nouvelle encore pire. C'est qu'il y a trois choses qui nous poussent à pécher de manière plus ou moins active. Il y en a deux, j'en ai déjà parlé. Le monde, notre nature propre, et il y a aussi le diable et tous ces démons qui sont actifs dans le monde pour nous pousser à pécher. On pourrait faire un message complet sur ce sujet. C'est très intéressant. Je lui dis un message sur le péché, c'est vraiment central. Mais je dois dire seulement peut-être une chose qui m'a marqué quand j'ai préparé, c'est de vous dire que un des mensonges préférés du diable, plutôt deux mensonges, le premier c'est de vous faire croire que le péché n'est pas grave. C'est juste un acte comme ça, c'est juste comme les autres. Ça c'est le premier mensonge. À chaque fois que le diable arrive à vous convaincre que ce que vous faites, c'est pas si grave, il est content parce qu'il arrive à vous maintenir le plus loin de Dieu possible. Et il y a un deuxième mensonge, c'est que le diable dise que votre péché est tellement grave qu'il ne faut surtout pas en parler et il faut surtout faire comme s'il n'existait pas. Quand on cherche à cacher notre péché, on est en un contre un contre le diable. Alors évidemment, on a Dieu, on a Jésus en nous, on a l'Esprit, je ne le nie pas. Quoi qu'il en soit, finalement, on est quand même juste nous contre le diable. Et quand on se met à en parler à nos amis, à nos parents, à nos frères et sœurs dans l'église, dans notre groupe de maison, alors là, tout d'un coup, on n'est plus en un contre un. On est à 3, 4, 5, 6, 1 million. Bon, peut-être pas. On est ensemble unis contre le diable et contre ses forces qui essayent de nous influencer. Progressons. Oh là là. J'ai les mêmes problèmes, c'est pas grave. Un Dieu qui ne se mettrait jamais en colère contre le mal ne serait pas parfaitement bon, il serait indifférent au mal. Cette phrase-là, ça permet d'apporter une réponse au verset qui nous dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère comme tous les autres. » La colère dont il est question ici, c'est bien la colère de Dieu. C'est aussi un sujet qui est un peu sensible, parce qu'on parle d'un Dieu d'amour, on parle d'un Dieu de justice, on parle peu d'un Dieu de colère, n'est-ce pas ? Ou alors peut-être la colère contre les autres. Le fait est que la colère de Dieu, c'est une composante qui est nécessaire à sa justice. Pourquoi ? Parce que si Dieu n'appliquait pas activement sa colère contre ceux qui font le mal, alors il ne serait pas juste, parce qu'une personne juste ne peut pas laisser le mal se répandre. Un Dieu qui ne se mettrait jamais en colère contre le mal ne serait pas parfaitement bon, il ne serait pas juste, il serait indifférent au mal. Donc ça permet aussi de se dire, ok, je ne risque rien à reconnaître que je suis pécheur et que je mérite la colère de Dieu. C'est des mots qui sont durs. Mais c'est la Bible, et c'est ça l'Évangile. Qui est venu avant Jésus-Christ pour préparer la voie ? Jean-Baptiste. Il prêchait quoi, Jean-Baptiste ? Il prêchait la repentance. Et quelles sont les premières paroles rapportées de Jésus-Christ dans l'Évangile ? Repentez-vous, car le royaume des cieux ou de Dieu... ça dépend de l'Évangile, est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ lui-même, quand il est arrivé, il n'a pas commencé l'Évangile au verset 4. Mais Dieu est riche en compassion à cause de son grand amour pour nous. Il a commencé par pointer du doigt le problème, par annoncer la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tellement pris par le péché que la seule manière pour nous de nous en sortir, c'est d'avoir Jésus-Christ qui le prend à notre place. Mais si on dit directement « Jésus est riche en compassion », ok, cool, ça me change quoi ? J'ai pas besoin de sa compassion. C'est pour ça que c'est vraiment important d'accepter et d'être humble vis-à-vis de Dieu et dire « Oui Seigneur, je mérite, ou plutôt je méritais ta colère ». Je méritais ta colère, parce que si tu n'avais pas agi avec colère envers moi, alors tu aurais laissé le mal prospérer. Vous me suivez ? Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». On ne peut pas laisser Jésus-Christ, on ne peut pas laisser la vérité prisonnière. On a besoin de libérer cette vérité. Et pour libérer cela, on a besoin d'être changé par Jésus-Christ. Et on arrive à la bonne nouvelle. Wouh ! Et la bonne nouvelle, c'est la partie que je préfère. Parce que ça fait tellement de bien d'entendre et de lire ces paroles que Paul a écrites aux Éphésiens et de savoir que tout ce qui a été écrit, ça me concerne directement et que c'est encore actif pour moi 2000 ans plus tard. Mais Dieu est riche en compassion. Amen. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Et ici, je vais faire une petite comparaison entre la mauvaise et la bonne nouvelle. Je ne sors pas ça de mon chapeau. Les versets 1 à 3, nous étions morts, vous étiez morts. Dans le péché, nous méritions la colère de Dieu, nous étions séparés d'avec lui et nous étions dans l'incapacité totale de nous réconcilier. Et là, Paul va nous annoncer la bonne nouvelle. Vous avez été vivifiés, ressuscités par la grâce de Dieu à cause de l'amour qu'il avait pour vous, afin que vous puissiez être en union avec Christ et bénéficier de sa résurrection. La bonne nouvelle ne fonctionne que quand on la met en contraste avec la mauvaise nouvelle. On nous parle d'être une nouvelle créature. Mais pour qu'il y ait une nouvelle créature, doit y avoir une ancienne créature aussi. Et j'insiste là-dessus, parce que vous savez, l'évangile de Matthias, il commence au verset 4. Quand je suis avec mes collègues et qu'on commence à parler un peu de spiritualité, de foi, j'ai pas envie de commencer au verset 1. Je veux direct aller au verset 4. Mais tu sais, Dieu est riche en compassion et il t'aime. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est 100% vrai. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas commencer par là. Ce que je suis en train de dire, c'est que il faut qu'on soit très très prudent aux promesses qu'on fait aux personnes à qui on donne la bonne nouvelle. Si jamais dans notre discours, on ne vient amener la notion du péché, le besoin de repentance, je vous l'assure, la bonne nouvelle restera une simple nouvelle. Et les gens choisiront, bon, ouais, ça me plaît pas. Alors c'est délicat d'amener cette mauvaise nouvelle, mais lorsqu'on arrive à le faire, et je crois que l'esprit vivant en nous est capable de nous donner les mots pour, lorsqu'on arrive à amener cette mauvaise nouvelle, alors tout d'un coup, l'évangile n'est plus une proposition, ça devient une nécessité. Et ça change la dimension. Ok, alors cette bonne nouvelle, plusieurs dimensions. Dieu aime le pécheur, c'est important. Nous-mêmes, nous devons aimer les pécheurs. Parce que Dieu est venu nous chercher lorsque nous n'étions même pas intéressés par lui. On n'avait même pas envie de se réconcilier avec Dieu et il nous a aimés et il est venu chercher là où on était. Nous aussi, nous devons aimer les pécheurs. J'ai ici un verset qui l'illustre, de nouveau un verset de Paul dans Romains. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Il prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour les pécheurs, afin qu'ils puissent être changés et renouvelés. Amen. Ça c'est bien, il faut le retenir, il faut le marteler. Deuxièmement, l'union avec Christ. J'aime bien la phrase, être un chrétien, c'est être un suiveur de Christ. Ou alors, c'est vouloir ressembler à Christ. J'aime bien cette phrase, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas être un chrétien complet si on cherche juste à copier Christ. Même si on le copie à 99%, on n'est pas des chrétiens. Parce que pour être chrétien, il ne faut pas ressembler à Christ, il faut être en lui, uni à lui. C'est notre union avec Christ qui nous sauve. Il était dans la tombe et parce que nous sommes unis à lui lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Il ne faut pas vous soucier de la temporalité. Ce n'est pas parce que 2000 ans après, vous avez fait le choix de le suivre que vous n'êtes pas ressuscité avec lui. Spirituellement, c'est tout à fait correct. Il ne faut pas vous soucier avec ça. Le chrétien n'est pas simplement quelqu'un qui imite Jésus. Il est uni à Christ. Amen. Et vous le savez, ça fait à chaque fois que je prêche, je le dis, je crois... Une très très bonne manière d'être uni à Christ, c'est de prier, c'est d'être les uns avec les autres, c'est de lire sa Bible, mais c'est aussi de participer à la communion fraternelle, de prendre la Sainte Cène. Si vous n'avez pas l'habitude de prendre cette Sainte Cène, faites-le. La Bible nous le dit, lorsqu'on mange le corps de Christ, qu'on boit son sang, on s'unit à lui. Encore une dimension, la grâce. Et la grâce, pour bien la comprendre, il faut savoir qu'elle est gratuite. On n'a rien à payer pour recevoir la grâce. Elle est imméritée. Avant qu'on soit sauvé par Christ et après, on ne mérite pas la grâce. Et surtout, elle est libre. Elle est donnée librement par Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'avait pas besoin de nous offrir sa grâce. Et pourtant, il l'a fait. La richesse abondante de grâce de Dieu, excusez-moi, la richesse abondante de grâce de Dieu remplit ceux qui autrement seraient restés affligés par une pauvreté spirituelle désespérée. La grâce, elle permet de remplir là où on était complètement vide. On était vide de vie, on était mort, mort spirituellement, physiquement, on était vide de vie, on était désespéré, on était dans une pauvreté spirituelle, et la grâce de Dieu, elle vient nous remplir abondamment. Et je vais faire un dernier point sur ce sujet de la bonne nouvelle, c'est sur le règne de Dieu. Nous sommes sur terre physiquement, mais déjà unis au Christ céleste spirituellement. Nous sommes des êtres interdimensionnels. Ça fait bizarre peut-être, mais je vais vous relire ce verset. Allez, on va commencer au 4, c'est tellement bon, je relis. « Mais Dieu est riche en compassion. Amen. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les cieux célestes en Jésus-Christ. Paul, ici, il parle au passé. Il nous a fait. C'est du passé composé, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez l'impression d'être assis actuellement dans les cieux à côté de Jésus-Christ ? Est-ce que c'est une question piège ? Je suis convaincu que le royaume des cieux, c'est pas quelque chose de lointain, de futur, de nébuleux. C'est pas quelque chose où notre âme s'envole comme ça, loin, loin, loin. On passe dans des trous de verre, on traverse les galaxies, et puis tout d'un coup, on sort de l'univers et on arrive dans le royaume des cieux. Non ! Jésus-Christ dit « Le royaume des cieux est proche, mais je ne vais pas le chercher à l'autre bout de l'univers. » Le royaume des cieux, le règne de Dieu, il est déjà ici présent. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, lorsqu'il a fondé son Église à la Pentecôte en envoyant l'Esprit-Saint, il a inauguré le royaume des cieux sur terre. Il y a une dimension spirituelle dans ce monde qui est réelle, qui est, on va dire, superposé à la dimension physique, et nous, actuellement, parce que nous sommes sauvés, nous sommes déjà spirituellement assis à côté de Christ. Qu'on le ressente ou qu'on ne le ressente pas, la Bible nous le dit, vous êtes assis à côté de Christ. Amen. Quand on a conscience de ça, ça change un peu les choses. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat qu'on mène comme ça contre les démons jusqu'à que Jésus revienne. Non, 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 Jésus est là, on est assis à côté de lui, il a vaincu la mort, et le combat, ben, ce n'est pas un combat, c'est on va chercher la victoire qui nous a déjà été offerte. Amen. Parfait. On va passer à la troisième partie, le but, c'est les derniers versets, les quatre derniers versets, qui nous parlent un petit peu de, voilà, c'est quoi ce, pourquoi est-ce que Jésus, Dieu, nous ont offert... La vie, pourquoi ? C'est pas évident. On va lire. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, premièrement, Dieu a fait ça pour sa gloire. Si Dieu est venu nous sauver, c'est pour sa propre gloire. On se dit, ah là là, il se fait péter la ceinture, quoi. Vraiment, il a les mollets, les chevilles. Non. Dieu ne peut pas être orgueilleux parce qu'il ne peut pas mentir. Donc tout ce qu'il dit sur nous et sur lui, c'est dans l'humilité. C'est conforme à la vérité. Si Dieu il fait ça pour manifester sa gloire, c'est parce que la gloire est un des qualificatifs de base de Dieu. Dieu est glorieux. Et manifester sa gloire, c'est tout naturel. Deuxièmement, on va un petit peu parler des œuvres. Donc les œuvres, vous savez que moi, quand j'étais un peu jeune chrétien, J'avais un conflit, j'arrivais pas à savoir si l'important c'était les œuvres ou la foi. Ah, c'était dur pour moi. Je lisais l'épître de Jacques et je me disais, aïe, 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 l'important c'est les œuvres. Puis après je lisais Paul et je disais, aïe, 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 l'important c'est la foi. Les œuvres ne sont pas la cause du salut. Point. Les œuvres ne sont pas la cause du salut. Jamais. Pas une seule. Ni leur somme, ni leur multiplication, rien. Elles en sont le fruit. Nous devons d'abord être l'œuvre de Dieu avant de pouvoir produire les œuvres de Dieu. On doit d'abord devenir une nouvelle créature en Christ pour ensuite faire des œuvres bonnes que Dieu nous a préparées d'avance. Toutes les bonnes œuvres qu'on fait, si ce n'est pas en Christ, c'est que pouic. Vraiment. Conclusion. Une vie transformée manifeste la réalité de la nouvelle création. Je continue. Deuxième chose importante, j'aimerais que vous reteniez, il faut prendre au sérieux la gravité du péché. On a parlé avant, retenez-le. Si nous minimisons la mort, alors nous minimisons aussi la résurrection. On ne peut pas ressusciter si on se sent parfaitement vivant. La résurrection ne fait pas sens. On parle de la résurrection de Christ, oui, mais surtout de la nôtre. Encore une chose, j'aimerais que vous puissiez retenir, il nous faut recevoir humblement la grâce. Humblement, c'est-à-dire pas selon notre conception de la grâce, mais selon la manière que l'Évangile nous parle de la grâce, comme quelque chose de gratuit, d'immérité. Nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes. Et c'est une libération d'entendre ça. Parce que si on devait se sauver nous-mêmes, oh là là, on n'irait pas loin. Plutôt qu'on n'irait vraiment pas au bon endroit. C'est tellement une grâce qu'aucune de nos œuvres ne puisse nous sauver. Et je voudrais préciser quelque chose là-dessus. C'est la foi qui sauve, on est d'accord. La foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas la foi en l'existence de Jésus-Christ. Le diable, il croit en Jésus-Christ. Il croit qu'il existe. Même plus que nous, peut-être. Mais il n'est pas sauvé, parce qu'il n'est pas en lui. Et la foi, elle ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. C'est écrit, la foi, c'est le don de Dieu. Donc même si on se dit, non, ce n'est pas les œuvres, c'est juste que je crois en Jésus-Christ. Non, c'est Dieu qui a placé en toi sa foi en lui. Rendons grâce à Dieu. Enfin, une dernière chose. Une fois que nous sommes une nouvelle créature, que nous avons conscience de notre ancien état, de notre nouvel état, nous devons activement marcher dans les bonnes œuvres. Les œuvres ne nous sauvent pas, elles témoignent que nous sommes sauvés. Une vie qui ne produit pas d'œuvres bonnes, est-ce que c'est une vie nouvelle ? Malheureusement, pas. Pas. Donc on peut faire des efforts, on doit faire des efforts. J'en veux pour preuve les apôtres, Paul, ceux qui les ont accompagnés, ce n'était pas une promenade de santé de créer l'Église. Pourtant, c'était des créatures nouvelles, mais ils ont dû se démener pour aller jusqu'au bout. Et je pense que sur les 12, il y en a 11 qui sont morts exécutés. Je vais arriver à ma conclusion. J'aimerais que vous puissiez retenir l'Évangile en 3 mouvements. Ça devrait être assez facile à retenir. Premier mouvement, nous étions morts. Nous étions morts. Dieu nous a ressuscités pour sa gloire et pour les bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Nous étions morts. Dieu nous a ressuscités pour sa gloire et pour les bonnes œuvres. Ça, c'est un évangile qui est complet. Il n'est pas exhaustif, mais il est complet. On ne tronque pas en haut et en bas, on ne parle pas « Dieu nous a ressuscités ». Ah là, ça c'est l'évangile. Non, l'évangile complet, c'est ces trois mouvements-là. Et il ne faut pas perdre de vue ni le point 1, ni le point 2, ni le point 3. Petite phrase de conclusion. On ne peut pas prêcher la résurrection sans avoir d'abord prêché la mort. Un évangile qui commence par « Mais Dieu est riche en compassion », sans être passé par « Vous étiez mort à cause de vos fautes et de vos péchés », n'est pas l'évangile de Christ. Un évangile qui commence par « Mais Dieu », sans être passé par « Vous étiez mort », n'est pas l'évangile de Christ. C'est l'évangile de Matthias. Et il ne faut pas que vous prêchiez l'évangile de Matthias. On est d'accord avec ça ? Super. Alors, je ne vais pas faire de temps d'appel, j'aimerais simplement que vous puissiez prendre un temps personnel avec Dieu. Je vous encourage à vous recroqueviller ou à lever les yeux au ciel, à fermer les yeux, peut-être à joindre les mains. Et je vous encourage à avoir un temps de prière fervente avec Dieu, une discussion que vous puissiez demander à Dieu, aide-moi à retenir ce qui est important. Aide-moi à changer ce qu'il faut dans ma manière d'annoncer l'évangile. Aide-moi à faire le tri s'il y a des choses mauvaises qui ont été apportées. Prenez ce temps avec Christ. On va laisser 4 minutes pour que vous ayez vraiment le temps de ne pas être coupé, d'accord ? Je vais lancer un timer de 4 minutes, je vais prier. Et ensuite, on terminera cette célébration gentiment, d'accord ? Seigneur, merci parce que tu nous as ressuscités. Merci parce que tu es venu nous chercher lorsque nous étions pécheurs. Tu nous as aimés le premier et tu nous as offert ton amour et ton Saint-Esprit afin que nous puissions vivre en créature nouvelle. Merci Seigneur, je te demande que ces vérités de ton évangile inscrites dans ta parole, puissent s'inscrire dans le cœur et se graver dans le cœur de chacune des personnes ici, des personnes en ligne, afin que plus jamais nous ne donnions un évangile qui n'est pas le tien, Jésus-Christ. Car tout autre évangile n'est pas bon. Il n'y a que le tien qui est bon. Amen.